don't know of any program in Uganda.
Of course not.
يصلون الليل بالنهار استعدادا.
¿Cuál sería su reacción?
21 веке гражданка Райс вспомнила.
这两天原本居住在祁连县偏远牧区的牧民南木家
正忙着正忙着
Todos juntos.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. Comme chaque vendredi, on vous propose une table ronde sur un sujet d'actualité internationale avec nos partenaires du Monde. Bonjour Marc Semo,
bonjour.
Journaliste au Monde. Nous allons parler de la question nucléaire. Ce matin, cette semaine, on a appris que le président américain se rendra le 27 mai prochain à Hiroshima sur le site de la première bombe atomique lancée le 6 août 45. Alors si l'administration américaine a fait savoir qu'il ne fallait pas s'attendre à des excuses de la part du seul président américain en exercice à se rendre au mémorial pour les victimes d'Hiroshima. Il faut voir dans ce geste le désir de peaufiner peut-être l'héritage qu'il cherchait à léguer avant de quitter la Maison Blanche, et notamment ce rêve, bien sûr, d'un monde sans armes nucléaires qu'il avait tant défendu lors de son discours de Prague en avril 2009 et dans lequel il avait promis que son pays prendrait des mesures concrètes dans ce sens. Mais s'il est parvenu à arracher un accord sur le nucléaire iranien, dont il faudra voir s'il garantira que Téhéran s'en détourne durablement, les défis restent nombreux et les pays disposant de l'atome tueur ne semblent pas disposés à s'en passer, à l'instar de la Corée du Nord qui en a même fait une condition de sa propre survie. Alors dans ce contexte, peut-on croire en un monde sans armes nucléaires? Et d'ailleurs, où en est-on de la prolifération? Quels sont les efforts pour la limiter? Pour évoquer ces points tout à l'heure, deux invités d'ores et déjà avec nous. Antoine Bondaz, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur à l'Asia Center et docteur associé à Sciences Po, un spécialiste de la Corée du Nord, ça tombe bien, il faudra qu'on en parle. À vos côtés, Benjamin Haute-Couverture, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes, vous, maître de recherche à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Avant d'évoquer ces questions et ce monde sans armes qui pourrait advenir ou pas, place à notre retour d'eux en partenariat avec l'Association des Prix Albert Londres. La journaliste qu'on reçoit ce matin nous revient d'un pays vers lequel s'envole justement notre président ce matin, la Centrafrique.
Allô, allô, en direct du studio B de Radio Nekeluka.
On est frais là, hein? Moi, je suis musulman, je suis à la tête d'une rédaction chrétienne. Bon, il y a des pratiquants aussi, mais il y en a qui ne sont pas pratiquants à l'intérieur de l'équipe. Mais nous, quand on vient ici, c'est pas la religion qui compte pour nous, c'est d'abord le travail. Hein, ce sont les objectifs de la radio que nous recherchons. Et je crois que même pendant la crise, nous étions le premier média, hein, la première radio à mettre ensemble chrétiens et musulmans justement pour commencer à parler de la réconciliation, de la cohésion sociale. Et c'était autour d'une même table.
Après la pluie vient le beau temps. Et je me sens bien là. C'est pourquoi je suis en train de vous transmettre, bien sûr, cette joie et la paix, la joie du cœur, la paix du cœur. Ouh, je suis inondé. Et où?
Bonjour François Scholler.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes journaliste. On vous reçoit pour votre reportage Centrafrique, une radio au cœur du chaos qui sera diffusée sur Arte samedi à 18h35 dans Arte Reportage. C'est donc cette radio, Radio Nekeluka, qui veut dire l'oiseau de bon augure, une radio de référence en Centrafrique que tout le monde écoute, créée pour essayer de produire et de diffuser une information fiable et crédible, mais aussi peut-être pour tenter, on va le voir, de rapprocher les communautés et d'apaiser les tensions dans ce pays traumatisé par des années de guerre civile. Alors on va rappeler quand même quelques éléments pour les auditeurs. Depuis le 30 mars dernier, le pays a un nouveau président, Faustin Archange Touadéra, ancien Premier ministre de Bozizé de 2008 à 2013. Bozizé, lui, on s'en souvient, était arrivé par un coup d'État en 2013 et puis renversé 10 ans plus tard par Michel Djotodia, soutenu par la Séléka, ce groupuscule de milices musulmanes. On se souvient bien sûr des violences perpétrées par nombre de ces groupes armés, des Séléka bien sûr, par les milices aussi chrétiennes anti-Balaka qui ont répondu en s'en prenant aux musulmans, sans compter les autres coupeurs de route, parfois difficilement identifiables. L'élection de Touadéra signe donc l'achèvement d'une transition qui aura été longue, pénible. Les défis sont immenses aujourd'hui, mais le principal, ça sera bien sûr de rassembler les conditions pour que la justice passe et que la réconciliation et la paix durable puissent enfin s'installer. D'ailleurs, c'était le sens de l'instauration de cette journée nationale des victimes des conflits centrafricains. C'était le 11 mai dernier, cette semaine. Votre documentaire, François Scholler, s'ouvre justement sur la cérémonie d'investiture du nouveau président, à laquelle de nombreuses personnes se sont rendues. On a vu notamment des ministres français, le ministre de la Défense et le ministre des Affaires étrangères. Visiblement, c'était un moment teinté de joie, mais aussi de soulagement. C'est un peu ce qu'on sent dans les images que vous avez prises. Un moment historique, bien sûr. C'est ce que vous avez ressenti aussi ?
Tout à fait. Historique et euphorique. On avait vraiment l'impression qu'on célébrait
le soulagement, la joie, enfin la fin des tensions, et tout le monde voyait dans l'investiture du nouveau président l'homme providentiel. Mmh. On pense même qu'il est appelé à faire des miracles pour réaliser tout ce qui pèse sur ses épaules maintenant. Mais en tout cas, l'espoir énorme est là maintenant. Quoi.
Ça, et c'est... faut-il le rappeler, premier président de la Centrafrique, élu démocratiquement.
Exactement.
Alors visiblement, vous dites que les relations entre les musulmans et les chrétiens sont bien meilleures. On se souvient que la venue du pape l'année dernière avait... Voilà, il avait essayé en tout cas de délivrer ce message de paix et d'espoir, mais tout ça reste très fragile quand même.
Oui, on parle de l'effet pape là-bas. C'est clair qu'il a apaisé, que depuis le calme est revenu, mais on sent aussi que c'est très précaire. Quoi. La tension, elle est un peu comme l'attente. On a l'impression qu'il suffit d'un rien pour que ça reparte. Et donc, le travail de cette radio est d'autant plus important.
On va en parler tout de suite. Il faut peut-être rappeler aussi quand même qu'il y a une forme de confessionnalisation en réalité du conflit. Au départ, il n'y avait pas réellement de tension entre chrétiens et musulmans. Et tout ça a été largement instrumentalisé par les politiques, il faut le rappeler.
Instrumentalisé, manipulé, ça a tourné en conflit religieux, mais ça ne l'était pas au départ, ça c'est clair.
Dans ce paysage, donc, la radio Ndeke Luka a joué un rôle très important. C'est ce qu'on comprend dans votre reportage lors des violences. Vous expliquez que pendant des mois, c'était un lieu, un espace dans lequel on se retrouvait pour peut-être un peu échapper aux pressions qui venaient des deux camps opposés. C'était un lieu, peut-être le seul lieu de neutralité dans ce conflit en réalité.
C'était un lieu de totale neutralité et je crois que c'est à ça qu'ils doivent d'exister toujours. Quoi. Parce qu'ils ont été menacés par les deux clans lors des événements. Peut-être parce qu'ils étaient totalement neutres, justement. Mais il y a... Jamais ils n'ont cédé là-dessus et ils ont quand même vécu des jours extrêmement difficiles. Hein, des groupes armés faisaient irruption jusque dans les locaux de la rédaction, cherchaient les rédacteurs jusque chez eux à la maison. Et donc ils ont dans les pires états de crise, ils ont bravé tous les dangers, les milices, les barrières pour arriver.
Aucun n'a été tué ?
Non. Pas que je sache, en tout cas, non. Mais voilà. Et puis, en plus, c'était plus qu'un lieu de débat. C'est devenu un lieu d'accueil. C'est la seule institution qui est la voie de confiance des Centrafricains, et qui l'est toujours, d'ailleurs. Les gens, au lieu d'aller au commissariat ou au tribunal ou à l'hôpital, les gens venaient à la radio, parce qu'ils voulaient être sûrs qu'on en parle. Et tant qu'une information n'est pas diffusée sur cette radio, elle est considérée comme pas tout à fait vraie.
Alors, la rédaction mélange chrétiens et musulmans. C'est le premier média à avoir rassemblé justement les deux camps autour d'un même projet qui est finalement... l'information. D'ailleurs, la première émission, c'est intéressant, portait ce nom aux allures de programme politique, quasiment réconcilions-nous. Et d'ailleurs, quand on entend les gens, finalement, qui font cette radio, mais aussi ceux qui l'écoutent, on a l'impression qu'au-delà de la question de l'information, il y a peut-être d'abord et avant tout une visée quasiment thérapeutique.
Oui, je crois que c'est aussi un lieu pour libérer la parole. Et on a assisté notamment à la table ronde de cette émission qui est devenue une émission phare de la radio, Elé Songo, réconcilions-nous. Mmh. Et c'était impressionnant, quoi, puisqu'il y avait un imam, un ancien chef de guerre chrétien, et qui parlaient tous quand même avec ferveur de ce qu'ils ont vécu, mais avec quand même ce désir maintenant qu'on sentait réel, une inspiration réelle, parce que je crois qu'ils sont tous... musulmans ou chrétiens, véritablement assoiffés de paix. Maintenant, ils en ont marre de ces tensions qui ont usé le pays jusqu'à la corde.
Assoiffés de paix, et en même temps, il y a des craintes réelles. Ce que vous dit, par exemple, le rédacteur en chef de la radio, c'est que le nouveau président va avoir beaucoup de mal à asseoir la paix, et à asseoir sa légitimité, sans s'appuyer sur les forces militaires. Parce que jusqu'ici, évidemment, l'armée, on s'en souvient, était au cœur des basculements de pouvoir. Donc, sans armée régulière forte, ce sera très compliqué, d'autant que les groupes armés, bien sûr, sont encore présents et sont encore très puissants.
Je crois que c'est le chantier numéro un, hein, et Dieu sait si les chantiers sont nombreux, mais c'est la sécurité, quoi. Sans armée, je vois pas comment il peut gouverner. Et puis, il faut effectivement désarmer tous ces groupes qui sont partout dans le pays encore, hein, à Bangui dans certains quartiers. Mais bon, nous, on ne s'est pas aventuré à l'extérieur de Bangui, parce qu'on nous l'a dit que c'est extrêmement dangereux, quoi. Pas seulement des groupes armés, mais des coupeurs de route, enfin... tout.
À un moment, François Scholler, on voit une réunion entre ces journalistes durant laquelle on s'interroge pour savoir s'il faut ou pas inviter, entendre, en l'occurrence c'est un ancien chef des Antipalaka pour cette émission. Quelle place justement cette radio laisse à ces groupes armés, à leurs chefs, à leurs ceux qui sont repentis? Quels sont les principes qui vont dicter justement les décisions? À qui on donne la parole et selon quels principes?
Ben, le principe central, ça reste la neutralité. Et à partir de là, on donne la parole à tout le monde, et encore plus maintenant, qui sont dans cette démarche de réconciliation. Et c'est ce qui m'a intéressé au départ dans le projet de la Fondation Hirondelle, la Fondation Suisse, qui donc crée et développe des médias indépendants dans des zones de conflit ou dans des pays qui restent traumatisés par les conflits. Et ils s'intéressent tant aux victimes qu'aux bourreaux dans la manière où ils font partie de la même collectivité. Donc il faut amener ces gens à dialoguer autour du micro, et c'est un pari qui a été gagné. Quoi,
comment la radio est financée?
La radio est financée, j'espère que les financements vont durer, parce que c'est toujours difficile, par l'Union européenne, par la Fondation Suisse, par une autre association encore dont j'avoue que le nom m'échappe pour le moment. Mais c'est précaire, et donc moi ça m'a intéressé de voir que le pouvoir, j'avais pas mesuré à quel point l'information était une arme, l'information rigoureuse et impartiale, quoi. Et dans la mesure où ça a un rôle social, je trouvais ça vraiment intéressant, et il faut les soutenir.
Alors vous accompagnez dans Bangui un ancien membre des Antibalaka qui s'appelle Émotion, qui est un chrétien qui a participé à des actes de violence et qui aujourd'hui est respecté par les uns et quand même encore craint par les autres, j'ai l'impression. Il vous emmène dans un camp de réfugiés, dans un camp de victimes qui ont quitté leur maison depuis des années maintenant. Dans quelles conditions est-ce qu'ils vivent et qu'est-ce qu'on prévoit pour eux?
Pour l'instant, je crois qu'il y a encore des centaines de milliers de réfugiés, hein, qui sont un peu partout dans le pays. Là, c'était un petit camp, mais le monsieur qui parle dans le reportage, il nous dit quand même qu'ils viennent de 6 régions différentes, et à ce jour, il nous dit rien n'est prévu. Donc, le gouvernement a annoncé qu'il allait s'en occuper, mais je veux dire, il y a tellement de chantiers dans ce pays qu'on se demande par quel bout ils veulent prendre.
Mais ils ont de l'espoir quand même.
Ils ont de l'espoir. Et c'est ça, même dans ce camp-là où après nous avoir dit on n'a rien, on n'a pas de quoi dormir, on n'a pas de quoi manger. Et ils terminent en disant « Mais le président a bien parlé, donc on a de l'espoir. » Donc là, vraiment, il est attendu comme Dieu le Père, ce président.
Vous êtes allé aussi au kilomètre 5. Le kilomètre 5, c'est un quartier musulman dont on avait beaucoup entendu parler durant les événements, qui avait été pris pour cible par les anti-balaka après les violences des musulmans de la Séléka. C'est une petite enclave musulmane au cœur de Bangui. Comment est-ce que vivent justement ces musulmans? Est-ce que c'est l'apaisement? Est-ce que les affaires ont repris? Parce qu'on sait qu'économiquement, c'est un pôle très important.
Oui,
comment est-ce qu'on vit?
C'est le poumon économique. Ouais. De Centrafrique, enfin de Bangui en tout cas. Donc les musulmans qu'on a rencontrés quand même nous ont montré que oui, que le calme était revenu, que les affaires reprennent, on le voit d'ailleurs dans le reportage, le commerce a repris ses droits, mais là aussi on sait qu'il y a encore des groupes, que c'est encore infesté de groupes armés, donc ça reste malgré tout précaire.
Et eux ont confiance justement en ce nouveau président?
Eux ont confiance. Ah oui, non, là, je veux dire, tous ceux à qui on a parlé, dans les pas toujours de Radio NDK Luka, nous parlent de l'homme providentiel. Quoi. Ils sont persuadés que ça va marcher.
Alors ça va se jouer maintenant, et puis l'avenir il se joue aussi à un autre endroit, il se joue dans les écoles, les petites écoles de quartier où vous êtes allé, où on voit les enseignants, les éducateurs qui travaillent pour diffuser justement des messages de paix, de fraternité entre chrétiens et musulmans, c'est là aussi que se joue l'avenir du pays.
Tout à fait, oui. Oui, je crois que l'éducation, tout commence par là. Hein. Tant que il y a deux tiers du pays qui est analphabète quand même, donc ceci explique aussi cela, donc... Ça va commencer par l'éducation aussi. Quoi.
Réaction ici en plateau avec nos invités Antoine Bondaz, Benjamin Haute-Couverture, sur ce cas avant d'évoquer la question du nucléaire.
Peut-être Antoine sur la question de l'information, c'est vrai que c'est extrêmement intéressant. Sur le cas nord-coréen, l'information est une clé, et c'est justement la clé que le régime essaye de continuer, encore et toujours à contrôler, et qui pourrait, in fine, sur 10 ou 20 ans, mener peut-être à la création d'une contestation, la création d'une dissidence. Et c'est vrai que voilà, la clé de l'information... pour tout régime politique et pour après les démocraties et les transitions.
Benjamin de Couverture.
Moi, ce que vous me dites m'évoque, vous parliez du nouveau président comme d'un homme providentiel, de l'importance de la rhétorique, on croit en ce qu'il dit, on voit ses paroles. D'une certaine manière, on en reparlera tout à l'heure, il en était un peu de même pour le président Obama quand il est arrivé au pouvoir, s'agissant de tout un tas de sujets, tout un tas de dossiers, et en particulier des dossiers stratégiques. Et il a même reçu le prix Nobel pour la paix, avant d'avoir fait quoi que ce soit. On était en 2009. Et j'apporte juste un bémol à tout cela, et je ne connais pas ces affaires régionales centrafricaines, mais la réalité est souvent têtue. Et on va voir tout à l'heure que sur les affaires stratégiques et les affaires nucléaires, malheureusement, la réalité a rattrapé le président Obama, rattrapé la rhétorique, rattrapé le discours de Prague, rattrapé la volonté de paix, d'une manière, je dirais pas dramatique, mais au moins beaucoup plus complexe que ça. Donc, je vous écoute et vous dites qu'il y a un véritable élan en Centrafrique. Et maintenant, il faut que les choses se fassent parce que le volontarisme politique est une chose. Et puis après...
Le bémol, il est là. Je veux dire, tout dépendra de comment il va s'entourer, s'il pourra résister à tous les corrompus qu'on connaît là-bas qui vont vouloir se presser de l'aider, entre guillemets. Donc, c'est sûr que l'avenir n'est pas encore joué.
Bien, il faudra suivre bien sûr cet avenir centrafricain. En tout cas, merci François Scholler d'être venu dans nos studios. Je rappelle le titre de votre reportage. Centrafrique, une radio au cœur du chaos. Ça sera diffusé samedi à 18h35 dans Arte Reportage. Merci beaucoup.
Avec de très belles images de Thibaut Graillot.
Merci beaucoup.
Révolution 2011, négro, mais qu'est-ce que tu crois? Don't know. Bangina que Sara, Sara, c'est kake kara, kara. Che Guevara, Fara, Koti Munandara, Dara. Kena Kuruga, Ga, Sia Puro Soso, So, Veize Danger Wall, Wall, Altes Rafal, Fal.
Gendo Limone, Gendo Rome, Gendo Entirime, Baba Gena Sreze.
Allez, on va quitter la Centrafrique pour parler de questions nucléaires après l'annonce de la visite d'Obama à Hiroshima. Un monde sans armes nucléaires pourrait-il advenir? C'est le sujet maintenant de notre table ronde.
France Culture, Culture Monde par Florian Delorme.
Cette semaine, la Maison Blanche a fait savoir que le président américain se rendra le 27 mai prochain à Hiroshima. S'il ne faut pas s'attendre, je le disais, à des excuses de la part du président, qui voit la fin de son mandat s'approcher à grands pas, le geste est d'ores et déjà salué du côté du Japon.
Je crois qu'en visitant Hiroshima, en comprenant sur place la réalité de l'exposition aux radiations, en prenant la parole, le président Obama va envoyer un message fort pour que l'on parvienne à créer un monde sans armes nucléaires. Une prise de conscience, voilà ce qu'attendent les survivants.
Voilà, on entendait à l'instant Shinzo Abe. Alors au-delà du symbole, qu'est-ce qu'on peut attendre des espoirs de monde dénucléarisé défendu par Obama dans son discours de début de premier mandat? Vous le disiez, du côté de Prague, on était au cœur de l'Europe, c'était en avril 2009. Les États-Unis, avait-il dit, en tant que seule puissance nucléaire à avoir jamais utilisé une arme nucléaire, ont la responsabilité morale d'agir en conséquence. Aujourd'hui, je souligne clairement avec conviction l'engagement des États-Unis et son désir d'œuvrer en faveur de la paix et de la sécurité d'un monde sans armes nucléaires, disait-il. Alors plus de 7 ans après, le monde a-t-il vraiment avancé sur le chemin de la dénucléarisation? Est-il seulement raisonnable, réaliste d'y songer? Pour le mesurer, il nous faudra notamment nous intéresser aussi au sommet sur la sécurité nucléaire dont le dernier s'est achevé le 1er avril dernier à Washington et où le président russe, il faudra parler aussi de la Russie, a brillé par son absence. Pour évoquer ces questions, Antoine Bondaz, Benjamin Haute-Couverture, on va commencer avec vous, Marc Semo, notre partenaire du Monde comme chaque semaine. Le geste d'Obama intervient, on le sait, dans un moment de tension extrême avec la Corée du Nord sur la question nucléaire qui, rappelons-le, a effectué son 4e essai en début d'année. En mars dernier, lors d'un sommet sur cette sûreté nucléaire, donc à Washington, il avait promis l'unité des États-Unis, du Japon et de la Corée du Sud afin de dissuader et de se défendre contre les provocations nord-coréennes. On est dans un contexte quand même où Pyongyang menace quasiment quotidiennement à la fois Washington et Séoul de frappe nucléaire, multipliant les essais, je le disais. L'espoir quand même d'un monde sans armes nucléaires, il apparaît aujourd'hui comme une douce utopie, Marc Semo.
Oui. Absolument. Et l'exemple de la Corée du Nord est peut-être le plus caractéristique. Le programme nucléaire de Pyongyang avait longtemps été considéré comme un essai surtout de moyen de chantage, une manière d'obtenir une forme de légitimation, d'obtenir des aides, etc. Aujourd'hui, les faits sont là. La Corée du Nord est une puissance nucléaire. Alors ensuite, c'est une toute petite. Ensuite, il y a énormément de discussions entre les experts pour savoir sur la réalité de leurs missiles, sur la réalité de la possibilité de réduire les charges pour les mettre sur les missiles, etc., etc., etc. Mais de fait, c'est même au-delà d'un pays du seuil. Et le nouveau grand leader inquiète un peu tout le monde, à la fois parce qu'il est effectivement assez capricieux et imprévisible, à la fois il est extrêmement rationnel. Aujourd'hui, on peut dire qu'il a tiré les leçons de ce qui avait été les exemples de Saddam Hussein et de Kadhafi, hein, qui avaient d'eux-mêmes, alors sous la contrainte, renoncé à leur programme nucléaire et qui l'ont payé assez, et qui l'ont payé par le renversement de leur régime. Désormais, on peut dire qu'il y a en Corée du Nord une stratégie de dissuasion nucléaire, qui est une espèce de version de la dissuasion nucléaire ubuesque, mais qui ressemble quelque part à celle de la dissuasion nucléaire tous azimuts de la France. Et on voit d'ailleurs, toujours pour en venir au nucléaire, à l'échec d'Obama là-dessus, à quel point le nucléaire, pour un certain nombre de pays, reste quelque chose de sacral. Et en France, c'est à peu près évident. Hein, c'est la caractéristique, une des quintessences du pouvoir du chef de l'État, c'est le bouton nucléaire. Donc, de ce point de vue-là, oui, on est très très loin du grand rêve d'Obama. Alors, il avait effectivement souligné sa responsabilité particulière, mais voilà, à part le nouveau traité START qu'il avait fait, je crois, en 2011, hein, où il y avait une réduction des têtes nucléaires, 1500 chacune pour les Russes et les Américains, bon, globalement, tout est bloqué, et cette idée d'un monde sans armes nucléaires reste une totale utopie.
On reparlera évidemment de ce traité START, même qu'on appelle parfois New START, effectivement, qui était entré en vigueur en 2011. Mais d'abord sur la Corée du Nord, Antoine Bondas, c'est un pays que vous connaissez particulièrement. Ce qui est aussi inquiétant, c'est qu'on a l'impression que rien n'a de l'effet sur la Corée du Nord. On voit par exemple les sanctions, la dernière en date, la résolution 2270, c'était il y a très peu de temps, hein, le 2 mars dernier, du Conseil de sécurité, qui a considérablement alourdi l'arsenal de sanctions internationales en imposant notamment un contrôle systématique de tous les cargos au départ ou à destination des côtes nord-coréennes. Alors évidemment, on comprend parce que, comme je le disais tout à l'heure dans mon introduction, la survie du régime tient finalement à la menace supposée, fantasmée ou même réelle de l'étranger qui voudrait finalement la destruction de ce régime nord-coréen. Mais on ne voit pas très bien dans ce contexte ce qu'on peut attendre très clairement de la Corée du Nord, Antoine Bondas.
C'est vrai, il y a eu historiquement deux types de politiques vis-à-vis de la Corée du Nord de négociation qui étaient un premier côté sur les incitations, notamment les pourparlers assistés, notamment l'accord de 94 entre les États-Unis et la Corée du Nord qui visait à apporter de l'aide, à apporter des réacteurs nucléaires civils dans les années 90. Puis une autre stratégie qui a été celle en fait de la contrainte, de la force, des sanctions symbolisées par les sanctions de l'ONU mais aussi les déclarations très fortes à l'époque du président Bush Junior. Ces deux stratégies ont échoué. Elles ont échoué pour plusieurs raisons, notamment l'incapacité des puissances régionales à se mettre d'accord et à coopérer pour forcer la dénucléarisation ou avant même la non-nucléarisation du pays. Cela tient notamment au manque de coopération réelle et concrète entre les États-Unis et la Chine, malgré les discours lors des rencontres successives entre Xi Jinping et Barack Obama.
C'est vrai que ça, c'est peut-être un des points qui est le plus surprenant, Benjamin Haute-Couverture, c'est-à-dire au-delà de la position, de la posture de la Corée du Nord, pour qui l'arme nucléaire est devenue une manière d'exister sur la scène internationale, ce qui nous frappe aussi, c'est toute l'impuissance des États-Unis et de la Chine à obtenir la moindre concession de la part de Pyongyang.
Absolument, vous avez raison. S'agissant de Washington, il y a certainement eu, tout au long des deux mandats Obama, une minimisation du problème. C'est-à-dire que la dangerosité du régime à Pyongyang a été sous-estimée à Washington par le pouvoir exécutif.
Rapprochez-vous un tout petit peu.
Ça n'a pas particulièrement intéressé les parlementaires. Et cette politique qu'on a appelée de patience stratégique de l'administration Obama n'a absolument rien donné. Les pourparlers assises, vous l'avez dit, se sont terminés d'eux-mêmes, d'une certaine manière. Et on s'achemine peut-être, on va en reparler, sur un scénario qui arrangerait le plus les Chinois, c'est-à-dire une espèce de statu quo. Un gel des capacités à peu près au niveau où elles sont, qui permettrait à la Corée du Nord de tenir telle qu'elle est, de ne pas risquer d'implosion, de ne pas risquer de donner aux États-Unis les possibilités et la justification pour développer leur bouclier antimissile régional, pour contenir les velléités.
Ouais, ça, c'est pas vraiment une nouveauté, pardon. Okay. Le statu quo, en gros, c'est la stratégie qui prédomine depuis la séparation des deux Corées.
Absolument. C'est-à-dire que ça irait très très bien aux Chinois. On a pu penser, en tout cas jusqu'à il y a quelques années, que les pourparlers à 6 amènerait à quelque chose. Vous aviez parlé, de l'accord du Joint Framework Agreement de 1994. Il y a eu également l'Union européenne qui s'est beaucoup investie. On a cru qu'avec le nucléaire civil, on arriverait à inciter la Corée du Nord à se défaire ou à ne pas aller trop loin dans le programme nucléaire militaire. Ça n'a effectivement pas fonctionné. Ça ne fonctionne pas. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ? J'irai un peu plus loin que vous, même Marc Semo. On a un leader nord-coréen qui cherche à se présenter comme un responsable, un commandant-chef des forces nucléaires, tout à fait responsable, et qui emprunte à la rhétorique de dissuasion nucléaire des États dotés leur formule. C'est-à-dire que la Corée du Nord, a-t-on appris la semaine dernière, ne sera pas le premier État de la région à utiliser un nucléaire. On croit rêver. Et le leader va œuvrer à la dénucléarisation mondiale, c'est-à-dire ce que disent les Indiens pour partie, ce que disent les Israéliens pour une autre partie. Et on en est là. Et c'est effectivement à la fois ubuesque et en même temps, c'est un État nucléaire qui, de facto, est en train...
Justement, c'est un État nucléaire, c'est une puissance nucléaire. Alors ensuite, on peut voir s'ils sont réellement capables de... Voilà. Mais en tout cas,
mais ça change quand même quelque chose.
Mais je suis d'accord. Donc il y a ce doute. Donc ils sont...
On aura des précisions à entendre Bondas sur ce...
Alors, sur le fond, c'est un terriblement mauvais exemple.
Absolument.
C'est le plus gros échec de prolifération, d'autant que la Corée du Nord est aussi un pays proliférant, y compris notamment pour les techniques balistiques.
D'où la résolution que vous mentionnez tout à l'heure sur l'arraisonnement des bateaux en provenance et à destination de la Corée du Nord. Là, c'est surtout pour contenir les volontés proliférantes.
Et d'envoyer les missiles.
Voilà.
Antoine Mondaz, pour rebondir sur la question de Marc tout à l'heure, qu'est-ce qu'on sait exactement des capacités nucléaires de la Corée du Nord ? Après tout, on n'est pas certain qu'elle dispose de la fameuse bombe à hydrogène.
Alors, tout est évidemment extrêmement opaque, extrêmement flou. Ce sont surtout des estimations. On estime aujourd'hui la Corée du Nord avec 9 à 10 ogives nucléaires. Est-ce qu'elle est capable de les avoir miniaturisées ? La question se pose. La question se pose aussi des vecteurs nord-coréens pour justement lancer ces armes nucléaires. Les essais balistiques, pour l'instant, ne sont que des essais. La Corée du Nord ne dispose pas de missiles balistiques à longue portée opérationnels. Cependant, j'aimerais revenir sur deux points précédents. L'échec des Américains, mais aussi des Chinois, puisque c'est aussi un échec chinois, d'éviter la nucléarisation de la Corée du Nord repose aussi sur une sous-estimation, non pas de la menace nord-coréenne, mais sur une surestimation des faiblesses, justement, de la Corée du Nord. Dans les années 90, si les Américains sont bien d'accord pour signer l'accord avec Pyongyang, c'est car ils sont persuadés que la Corée du Nord va s'effondrer. C'est la logique de l'histoire, c'est la fin de l'histoire. Le bloc communiste s'est effondré. La Corée du Nord ne peut pas, elle seule, survivre dans cette région en ayant perdu le soutien de l'URSS, en ayant perdu le soutien de la Chine. Grosse erreur stratégique. Grosse erreur stratégique aussi à la fin des années 2000, après l'accident vasculo-cérébral de Kim Jong-il à l'été 2008, quand les négociations reprennent, quand les Sud-Coréens, les Américains sont persuadés qu'il faut tant faire pression que discuter, puisque le régime, encore une fois, risque de s'effondrer. Grosse erreur. La Corée du Nord est un régime bien plus stable qu'on ne le pense, qui a réussi diplomatiquement à de grandes réussites diplomatiques, qui a réussi à proliférer, c'est-à-dire à développer son programme nucléaire, qui n'est pas forcément aujourd'hui un État proliférant sur la question nucléaire, grâce et grand merci aux sanctions de l'ONU. Et donc, la Corée du Nord, d'une certaine façon, dans la région, est un pays qui s'est servi des erreurs d'analyse de ses voisins pour servir son intérêt national.
Et est-ce qu'on a corrigé ? Parce que, d'une certaine manière, on pourrait se dire qu'aujourd'hui, si les États-Unis, précisément, refusent de négocier avec la Corée du Nord, parce qu'aujourd'hui, Washington ne veut pas aller à la table des négociations, alors que Pyongyang le souhaiterait, est-ce que ça veut dire, précisément, qu'on a compris ? C'est-à-dire qu'on sait que le régime va tenir ?
La question est, quel est aujourd'hui l'objectif des États-Unis ? Est-ce que l'objectif est la dénucléarisation ? Je ne le pense pas. Est-ce que l'objectif est la non-prolifération ? C'est-à-dire la volonté que la Corée du Nord ne prolifère pas vers d'autres pays et la volonté également que la Corée du Nord ne prolifère pas intérieurement, c'est-à-dire ne fasse pas de nouveaux essais nucléaires et ne développe pas ses capacités nucléaires.
Marc Semo et puis Benjamin de couverture. Marc Semo.
Pour revenir à la politique d'Obama, donc à son grand discours de Prague qui était magnifique, etc., mais qui effectivement était très utopique. Parce que globalement, à part l'accord avec les Russes, ce New Start, donc sur une limitation des missiles nucléaires, qui en plus était quand même assez limité dans son champ. Finalement, le discours sur la dénucléarisation n'implique personne. à commencer par la France, qui a toujours été totalement opposée. S'il y a un pays où le débat sur le nucléaire est comme très faible, c'est la France. L'option zéro qu'avaient développé certains anciens hauts cadres de l'administration américaine, toutes tendances confondues, en France est quand même totalement refusée et absolument pas prise au sérieux.
Benjamin
Couvert. Alors, comment on explique ça?
Alors, oui, alors on explique ça finalement, les choses sont assez simples. Qu'est-ce que vous avez en avril 2009? En avril 2009, vous avez donc un président qui fait montre d'un très grand volontarisme à Prague. Et dans le même discours, il dit que ce monde exempt d'armes nucléaires, il ne le verra pas de son vivant. C'est un président jeune, il le dit. Hein. Il ne le verra pas de son vivant. C'est un président jeune, et donc il dit, d'un côté, il retire d'une main ce qu'il promet de l'autre. Et en même temps, il s'engage, et c'est tout à fait normal, et c'était attendu par tout le monde, dans un processus de modernisation de l'arsenal nucléaire américain, qui fait que c'est extrêmement coûteux, qu'aujourd'hui, la maintenance, modernisation de l'entreprise nucléaire américaine, c'est à peu près 23 milliards de dollars par an, hein, on est très loin des 3,5 milliards d'euros de la maintenance de notre propre dissuasion, et on va le voir à Hiroshima, pas faire ni un mea culpa, ni un nostra culpa, que sais-je, mais être là symboliquement pour relancer, peut-être pour son successeur, une nouvelle séquence nucléaire. Mais en réalité, rien n'a changé, juste le discours a changé, parce que les Américains doivent avoir cette faculté de dire dans la même journée l'un et son contraire en s'adressant à des publics différents. Mais la réalité, c'est que le monde exempt d'armes nucléaires, le président Obama, et c'est inédit, en a endossé l'objectif, mais les moyens pour y arriver ne sont pas là. New Start est certainement le dernier traité du processus Start de dialogue bilatéral stratégique et d'armes contrôle bilatéral stratégique. Et pour le reste, il n'y a rien. Et on ne sait pas ce qui va se passer. Et le traité d'interdiction complète des essais n'a toujours pas été proposé au Congrès américain pour qu'il soit ratifié. Qu'est-ce que fait la France, elle? Qu'est-ce que dit le discours français à contrario? C'est de dire, écoutez, nous ne sommes pas pour l'objectif d'un monde global zéro, d'un global zéro un jour, d'un monde exempt d'armes nucléaires, non pas parce que nous ne le voulons pas, mais parce qu'il est absolument impossible de le dire dans la mesure où le processus de désarmement nucléaire est lié aux vicissitudes du contexte géostratégique. Et par conséquent, il faut avancer par petits pas. Et donc le désarmement est un processus dans lequel nous sommes engagés, mais nous ne pouvons pas dire, et surtout nous ne pouvons pas prévoir quelles seront les échéances d'un monde exempt, ce qui paraît peut-être plus réaliste, en tout cas plus cartésien.
Un tout petit peu de pédagogie, Benjamin Haute-Couverture, et je vous donne ensuite la parole, Antoine Bondaz, mais donc il faut rappeler New Start, Start pour Strategic Arms Reduction Treaty, donc qui est un traité de réduction des armes, comme son nom l'indique, nucléaire, entre les États-Unis et la Russie, qui avait été signé en avril 2010, Prague d'ailleurs, qui est entré en vigueur l'année suivante, qui est censé durer jusqu'à 2021. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quand même en quelques mots ce que prévoit très concrètement l'accord? Et puis, s'agissant de l'effet, est-ce que vraiment, comme dit Marc, il n'y a eu absolument aucun effet?
Oui, il n'y a eu aucun effet, si vous voulez, dans la mesure où les plafonds qui ont été fixés par New Start, qui sont de 1500 têtes nucléaires par État, sont des plafonds qui, de toute façon, sont de facto les plafonds auxquels on arrivait par le traité précédent. Donc, c'est un traité qui est très peu ambitieux. Le traité précédent,
juste pour qu'on ait une idée, en gros, les deux seuls qui en ont plus, c'est les États-Unis et la Russie. Tous les autres,
c'est 90%.
Ça, c'est très clair. Il y a dans les arsenaux russes et américains l'équivalent d'à peu près 4500 têtes nucléaires pour chaque État, ce qui représente à peu près 93% des têtes nucléaires dans le monde. Donc de toute façon, si un effort de désarmement nucléaire doit être continué, c'est dans ces deux arsenaux, et les deux États en sont parfaitement d'accord, il n'y a pas vraiment de problème là-dessus. Sachant tout de même, attention, qu'on est à peu près à 15 000 têtes nucléaires dans le monde aujourd'hui, on était à 68 000 en 1987. Hein. Donc le désarmement, c'est une réalité historique extrêmement forte.
Antoine Bondaz.
On parlait précédemment du caractère ubuesque de la Corée du Nord, mais je préférerais revenir justement sur le réalisme de la Corée du Nord. La Corée du Nord est l'un des rares pays qui, depuis 60 ans, a été confronté à une menace nucléaire. La menace américaine pendant la guerre froide, la menace d'utilisation par les États-Unis d'une arme nucléaire. Et puis, tout simplement, Séoul, à l'époque, la Corée du Sud, était protégée par le bouclier nucléaire américain.
Elle l'est toujours.
Des armes ont été déployées en Corée du Sud par les États-Unis jusqu'en 1991. Et l'atome a été, depuis les années 60-70, pour la Corée du Nord, un moyen stratégique tant d'assurer sa défense, mais aussi d'assurer son indépendance et son autonomie vis-à-vis des grandes puissances de la région, que ce soit l'URSS devenue la Russie, la Chine, les États-Unis ou le Japon. Et il faut bien en fait essayer de comprendre le mode de pensée nord-coréen pour comprendre aujourd'hui pourquoi il est tant difficile d'imaginer la dénucléarisation d'un pays qui conçoit ses armes non pas comme des armes diplomatiques, et Marx et moi en parlaient au début, et ça a été une erreur de la communauté internationale, de penser que la Corée du Nord en fait voulait obtenir des céréales et de l'énergie contre son programme nucléaire. Ce n'était pas le cas. La Corée du Nord a joué de ses perceptions occidentales, mais ce n'était pas le cas. La Corée du Nord aujourd'hui conçoit son programme et ses armes nucléaires comme des armes défensives, c'est-à-dire pour assurer la défense du pays, mais aussi comme des armes identitaires. La question nucléaire a été constitutionnalisée en 2012. En 2013, Kim Jong-un présentait la ligne Pyongjin, le développement simultané des capacités militaires, dont nucléaires, et des capacités économiques du pays. Aujourd'hui, les armes nucléaires légitiment le régime, légitime Kim Jong-un, légitime le caractère héréditaire du régime, puisque c'est Kim Il-sung, le premier, qui a lancé le programme nucléaire pour le confier à son fils, Kim Jong-il, qui a lui fait le premier essai nucléaire, avant de confier l'arme nucléaire à son fils lui-même, Kim Jong-un. Et tous ces éléments font que la Corée du Nord est extrêmement réaliste, et en même temps est extrêmement peu enclin aujourd'hui à se dénucléariser.
Marc Sémo.
Juste un point, le nucléaire identitaire, c'est pas aussi valable pour la France ?
Bien sûr. Et c'est justement intéressant de comparer le livre blanc de la défense français et les déclarations de la Corée du Nord sur l'arme nucléaire. Et comme on le disait précédemment, il y a quand même des similitudes qui sont assez perturbantes. C'est-à-dire présenter l'arme nucléaire comme un moyen d'autonomie, un moyen d'assurer l'indépendance du pays, la volonté, comme le disait Monsieur de Couverture, juste avant, la volonté de ne pas utiliser l'arme comme un premier, en capacité de première frappe, l'utiliser comme des capacités défensives, même si, à ce sujet-là, la Corée du Nord avait fait des annonces avant le 7e congrès, donc qui a eu lieu la semaine dernière. Dès 2013, la Corée du Nord en parlait, et dès 2009, des responsables nord-coréens parlaient d'une Corée du Nord responsable. C'était à l'époque ce qu'on appelait dans la presse chinoise le plan C, présenter en fait la Corée du Nord comme une puissance responsable qui ne va pas proliférer et qui, in fine, sera acceptée par ses voisins.
Benjamin, haute couverture, finalement, la Corée du Nord et la France, même combat, en tout cas la même vision de ce que doit être l'arme atomique dans la défense nationale ?
Non, pas absolument pas, mais pas du tout, si vous voulez. Moi, je comprends ce que vous dites, et puis vous faites un petit peu l'avocat du diable, et c'est normal. En revanche, là, je suis parfaitement d'accord avec vous, c'est de dire que la dynastie des Kim est extrêmement réaliste. Ils avaient pour idole Kissinger, et je crois que vraiment ça aurait dû alerter un peu plus tôt. Ce sont des gens extrêmement réalistes qui comprennent extrêmement le fonctionnement des rapports de force et des rapports de puissance. Là où on disait avec Marc Sémo que c'était un côté un petit peu ubuesque, si vous voulez, c'est que se donner l'ambition d'une puissance nucléaire responsable avec un discours responsable tel qu'un pays comme la France et un, ne pas en avoir les moyens, deux, passer sa vie à affamer sa population, trois, être d'une agressivité, d'une bellicosité à l'égard de ses voisins et de la Corée du Sud, montre bien, si vous voulez, qu'il y a là encore, mais d'une autre manière, un discours qui est un discours apaisant et une réalité extrêmement dangereuse, extrêmement préoccupante, et pour laquelle on peut tout de même penser encore un instant que le volontarisme des grands États et de l'Union européenne devrait faire que l'objectif à tenir pour la communauté internationale est encore de dénucléariser la Corée du Nord et de ne pas s'en tenir à ce pseudo-discours responsable.
Mais sur le parallèle de Marc sur la question au fond de l'arme nucléaire comme élément de l'identité nationale, c'est vrai qu'en France ça fait partie.
Mais bien sûr, mais pas qu'en France. Qu'est-ce que vous croyez ? En URSS c'était le cas, c'est le cas en Inde très fortement, au Pakistan
on parlera tout à l'heure du Pakistan.
La considération identitaire est très forte dans le lancement d'un programme nucléaire militaire. C'est une évidence. Et en France c'est absolument évident après les claques militaires qu'on a pris au XXe siècle, bien entendu.
Peut-être encore un petit mot sur la Russie avant de passer justement au Pakistan. Et du coup à l'Inde, évidemment, parce que les deux sont indissociables. Moscou a remis, c'est vrai, l'arme nucléaire au cœur de sa doctrine sécuritaire. Elle rappelle régulièrement que c'est l'une des plus grandes puissances nucléaires du monde. Poutine a demandé l'année dernière que soit effectué un inventaire, une remise en état, voire même un réapprovisionnement des matériels pour se préparer, c'est ce qu'il a dit, à une guerre nucléaire. Comment est-ce qu'il faut l'interpréter? Est-ce que on est en face, au fond, d'une nouvelle conception de ce que doit être, justement, l'arme nucléaire dans la sécurité russe? Et comment les autres puissances nucléaires, et notamment celles appartenant à l'OTAN, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, doivent, peuvent réagir? Benjamin Haute-Couverture, d'abord.
Il y a deux choses dans le discours russe actuel. Il y a d'abord un processus de modernisation qui est de l'arsenal nucléaire, qui est assez ancien, qui date du début, la fin du siècle dernier et du début de ce siècle-là. Et par conséquent, il ne faut pas s'affoler en particulier de la modernisation des forces stratégiques russes. C'est le cas aux États-Unis, ça va être le cas en France bientôt, avec un débat qu'il va falloir entamer sur la modernisation de nos forces. Et puis, se greffe sur cette réalité, qui est une réalité militaire, stratégique, capacitaire et doctrinale, se greffe un président qui fait montre, effectivement, de ses muscles, d'une volonté de réémergence de puissance russe, etc., etc. Et on a, en plus de cela, des bruits, des faisceaux de signes selon lesquels des anciens militaires de haut gradé disent qu'on pourrait utiliser l'arme nucléaire dans des guerres locales, etc., etc. Donc, ils mettent un petit peu le feu aux poudres pour montrer que non seulement ils ont des gros muscles, mais qu'en plus, ils pourraient modifier ou sortir de la doxa et
mais est-ce que c'est pas une manière de dire justement que la Russie est là?
Il n'y a rien de doctrinal là-dedans, et les nouvelles doctrines qui sont sorties n'ont pas fondamentalement changé les doctrines d'emploi.
Mais est-ce que c'est pas, et je vous donne tout de suite la parole, Marc Semo, mais est-ce que ça, c'est pas aussi le signe que finalement la Russie montre qu'elle est aussi une puissance nucléaire, parce que précisément du point de vue des armes conventionnelles, elle n'est pas à la hauteur?
Oui, bien entendu, bien entendu, et elle le rappelle tout à fait.
Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose maintenant, entre justement ces déclarations de généraux russes, etc., qui est en train de changer, c'est-à-dire de l'idée que quelque part, dans un monde très différent, on n'est plus dans la logique des deux blocs avec lesquels l'anéantissement réciproque, on peut imaginer dans des guerres d'un type différent qu'on puisse utiliser des armes nucléaires tactiques, ce qui avait été pendant des années un tabou absolu.
Ce qui est le tabou absolu.
Y compris contre des pays ou des mouvements ou des forces qui ne l'ont pas.
Absolument, absolument. C'est le tabou absolu et ça doit rester le tabou absolu. Et de ce point de vue-là...
Est-ce qu'il n'est pas en train de voler en éclats?
Alors, de ce point de vue-là, moi, je ne dirais pas du tout qu'il vole en éclats. En revanche, on peut penser qu'à la marge, il se fissure un petit peu. Et donc, il est temps, effectivement, de réaffirmer que l'arme nucléaire est une arme de non-emploi. Que c'est une arme politique, que c'est une arme stratégique et que ça ne saurait devenir une arme tactique. Mais pour le moment, que je sache, il n'y a pas dans le discours officiel russe une remise en cause du statut stratégique de leurs armes nucléaires.
Antoine Bondaz,
je ne pense pas.
Antoine Bondaz, pourquoi Poutine n'était pas là? Pourquoi il n'était pas là au dernier sommet sur la sûreté nucléaire?
La question, c'est que ces sommets avaient lieu donc aux États-Unis. C'était aussi le moyen de rencontrer le président Obama. La question est, le président Poutine souhaitait-il rencontrer le président Obama? Du point de vue chinois, du côté chinois, si la visite de Xi Jinping a eu lieu, c'était en grande partie non pas pour présenter la Chine comme une puissance responsable sur le plan nucléaire, ce qu'elle est et ce qu'elle cherche à montrer, mais aussi pour pouvoir rencontrer de façon bilatérale le président Obama. Donc, je suis pas sûr que le sommet sur la sûreté nucléaire soit en soi la raison de la visite de tous ces chefs d'État. Ce qui est intéressant...
D'accord, on parle pas de sûreté nucléaire, quoi.
Attendez, on parle de sûreté nucléaire, mais ce n'est pas la seule raison qui explique la visite d'un chef d'État à Washington pour en parler. C'est-à-dire que en envoyant un Premier ministre, en envoyant un ministre des Affaires étrangères, on peut très bien signer une déclaration. Bien évidemment, l'image et le symbole est moins importante. Lorsque cependant un chef d'État se rend à Washington, l'occasion est de rencontrer également le président américain, ce que Xi Jinping notamment voulait faire.
Vous voulez réagir, Benjamin Haute-Couverture?
Oui, je voulais juste réagir parce qu'il s'agit de sommets sur la sécurité nucléaire, pas la sûreté. Ce sont deux choses très différentes. La sécurité nucléaire, c'est, selon l'AIEA, tous les risques intentionnels qui sont liés au terrorisme nucléaire. Donc, c'était pas du tout des sujets, des sommets sur la sûreté nucléaire. La sûreté nucléaire, c'est autre chose. C'est vraiment les risques
de catastrophe naturelle. Et pour ça, il y a un consensus et un régime international qui existe depuis 40 ans.
Mais à coup de pas, vous avez complètement raison. Mais du coup, vous me tendez une perche. Parce qu'effectivement, l'une des choses qu'on évoque beaucoup ces derniers temps et qui a été très discutée justement dans ce dernier sommet de la sécurité nucléaire, c'est le risque de voir, pourquoi pas, une organisation terroriste, au hasard, disons Daesh, s'emparer d'éléments permettant de fabriquer quelque chose, voilà, une arme radiologique. Alors pas une bombe nucléaire, mais quelque chose comme une, ce qu'on appelle une bombe sale. C'est une menace qu'il faut prendre au sérieux?
Alors, deux choses, si je puis me permettre. Deux choses. Premièrement, un mot sur l'absence des Russes. Ils avaient été là au sommet de 2010, ils étaient là en 2012, ils étaient là en 2014. Donc forcément, il s'est passé ce qui s'est passé en 2014. On le sait, d'ailleurs, ça avait ruiné un petit peu le sommet de la Haye sur la sécurité nucléaire, troisième du nom, parce qu'il y avait l'annexion de la Crimée au même moment et on n'a parlé que de ça. Et donc, depuis, il y a toute coopération bilatérale sur les sujets nucléaires de sûreté, de sécurité et autres, même de non-prolif, sont clos, si vous voulez. C'est-à-dire que les Américains ont même gelé, arrêté, suspendu les programmes d'aide à la Russie sur les questions de sécurité nucléaire, de démantèlement des anciens sous-marins nucléaires, etc., etc. Et donc, dans ce contexte, évidemment, Poutine n'allait pas y aller lui-même ni envoyer une délégation pour continuer à parler entre États qui se comprennent bien sur les questions de terrorisme nucléaire, alors que les Russes sont à la pointe sur ce sujet. Donc c'était une manière de montrer que les relations sont ce qu'elles sont, c'est-à-dire qu'elles ne sont plus. Voilà, et on ne se parle plus, on ne se dialogue plus et on ne s'aime plus. Maintenant, sur la question de la sécurité nucléaire elle-même, les Russes, qui sont encore une fois sont aux avant-gardes, ils seront là à la conférence internationale de décembre prochain sur le même sujet à l'Agence internationale de l'énergie atomique. Et pourquoi est-ce qu'on a beaucoup parlé de ce sommet-là à Washington? C'est naturellement parce qu'il y a eu tous ces attentats en Europe et en France en particulier. Et donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir si les petits malins de Daesh seront capables de mettre la main sur suffisamment de matière fissile.
Et la réponse est ?
Et la réponse est non. La première question, Daesh ne peut pas mettre la main sur une arme nucléaire. Deux, Daesh ne peut pas construire elle-même d'arme nucléaire. Il n'y a pas d'Oppenheimer en puissance dans les airs.
Mais sur une bombe sale, où il suffit de trouver finalement des trucs, y compris le matériel hospitalier.
Trois, ils peuvent mettre la main sur des matières radiologiques. Dans des cliniques, dans des réacteurs de recherche, des industries non nucléaires, etc. Et là, essayer de confectionner avec ça un engin explosif improvisé pour le faire sauter.
Qui fait aérosol, mais ça suffit à créer un traumatisme.
Pour créer de la radioactivité, pour diffuser de la radioactivité et créer de la panique dans une population en faisant un ou deux morts, ou zéro, d'ailleurs. Mais ça, effectivement, c'est possible, c'est envisageable. Mais de quoi faut-il parler? Il faut parler, un, du mécanisme de dispersion envisagé, et deux, de la matière radioactive envisagée elle-même, parce que on ne peut pas disperser tout et n'importe quoi. Et il en faut des grosses quantités pour que ce soit significatif.
Par exemple?
Je ne donnerai pas d'exemple.
Tout dernier thème, il nous reste 4 minutes à peine. Il y a quand même un pays qu'il faut qu'on aborde, le Pakistan. L'année dernière, la Fondation Carnegie pour la paix internationale a publié un rapport dans lequel on apprenait que le Pakistan pourrait devenir d'ici 10 ans la troisième puissance nucléaire mondiale. Peshawar dispose aujourd'hui d'une centaine de têtes et pourrait monter à 350, nous dit le rapport, d'ici 2025. Est-ce que ça vous paraît possible?
Oui.
Pourquoi? Ok, très bien. Pourquoi ce besoin d'accroître cette capacité nucléaire? Et est-ce que finalement, le danger précisément de la prolifération n'est pas... là où il est le plus grave, finalement, le plus important, c'est pas dans cette région, l'Asie du Sud.
Je vais laisser mon camarade répondre.
Antoine Mondal.
Je réponds après.
sur la question du Pakistan, deux éléments. Quel est l'un des derniers pays, alors non pas en pays, mais en tout cas, quelle est la dernière provenance de prolifération? C'est notamment le Pakistan, qui a transféré, non pas encore une fois, le gouvernement, mais des chercheurs pakistanais, proliférer vers la Corée du Nord à la fin des années 90, au début des années 2000. Deuxièmement, quels sont les deux pays qui bloquent généralement la conférence sur le désarmement à Genève? Ce sont la Corée du Nord et le Pakistan. Le Pakistan est une question extrêmement importante sur la question de la sécurité nucléaire. La région est extrêmement instable. Et à la rigueur, s'il y a un avantage, entre guillemets, et je vais vraiment plusieurs guillemets, à la Corée du Nord, c'est que le régime est plus ou moins stable. Le régime est présenté comme complètement ubuesque, encore une fois, complètement irrationnel. En attendant, le régime est en grande partie rationnel. L'utilisation de ces armes, aujourd'hui, conduirait à un suicide du régime. Si la Corée du Nord, aujourd'hui, souhaitait annihiler Séoul, détruire une capitale de 25 millions d'habitants, la Corée du Nord pourrait le faire avec ses armes conventionnelles, avec ses armes chimiques et avec ses armes bactériologiques.
Et là où vous voulez en venir sur le cas du Pakistan, c'est que, disons que le politique n'a pas cette main sur le militaire.
Est-ce que le régime pakistanais est aussi stable, c'est-à-dire qu'il c'est y a... Ça. Est-ce que les contre-pouvoirs au Pakistan, est-ce que les services de sécurité, est-ce que la situation politique en général dans le pays est-elle aussi stable qu'en Corée du Nord?
Alors du coup, la dernière question, et vous répondez en 30 secondes. Pourquoi le Pakistan a pu tranquillement développer son arsenal nucléaire sans que personne ne trouve rien à redire?
Alors, le Pakistan, vous dites, le Pakistan?
Oui.
Mais tout simplement parce qu'ils n'ont pas signé le traité sur la non-prolifération nucléaire et qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent.
Et pourquoi ne mettons pas la pression sur le Pakistan?
Le Pakistan n'est-il pas un allié de fait des États-Unis?
D'abord, le Pakistan est un allié de fait, voilà, et d'autre part... C'est vrai, il faut le dire. Et puis il faut être réaliste, il faut faire la réelle politique. Mais la vérité aussi, c'est que le Pakistan est un État souverain qui n'a signé absolument aucun traité et qu'on ne peut absolument pas contraindre avec aucune règle de droit, précisément parce que c'est l'un des trois États qui n'a pas signé le traité sur la non-prolifération, à la différence de la Corée du Nord qui est partie en janvier 2003 en utilisant une clause de sortie de manière tout à fait illégitime.
Mais est-ce que Washington laisse faire Peshawar, Antoine Bondaz?
C'est la grande question. Est-ce que Washington et est-ce que Pékin aussi, puisqu'au final la nucléarisation du Pakistan est bien utile aussi contre une Inde nucléaire?
Bien sûr. Don't you know you're talking about nuclear war. Talking about nuclear war. It's a motherfucker, don't you know? It's a motherfucker, don't you know? If they push that button, your ass gotta go. It's a motherfucker.
Nuclear War par Sanra, malheureusement, de circonstances pour nos discussions sur cette question d'un monde sans armes nucléaires, avec Antoine Bondaz, chercheur à l'Asia Center, docteur association SPO, Benjamin Haute-Couverture, maître de recherche à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous. Un grand merci, bien sûr, à Marc Semo, notre partenaire du Monde, chaque vendredi. Dans un instant, sur France Culture, c'est La Grande Table avec Caroline Brouet. Mais juste avant de la retrouver, sur France Culture, La Vie Moderne. Très belle journée, bon week-end et à lundi.